On avait commencé en 2000. Le ministère de l'Intérieur nous avait commandé une étude sur les maltraitances financières. Nous avons rendu cette étude en 2000. Puis en 2007, la FIAPA a organisé, dans le cadre du programme Daphné du Conseil de l'Europe, une enquête en France, Italie, Espagne et Belgique sur les maltraitances financières. Avec des résultats édifiants, puisque un peu plus de 19% des personnes interrogées, donc des gens de plus de 65 ans dans les quatre pays, disaient avoir été témoins ou victimes d'actes de maltraitance financière. On avait là tous les réseaux d'escroquerie classiques, à la fois par des professionnels du droit, par des professionnels de la banque, par des professionnels de la justice, par des familles, parce que les familles sont au premier rang, encore que les choses sont plus complexes pour les familles. On a une sorte d'achat d'amour par les vieux. Or, ces vieux-là, ils ont honte de s'être fait escroquer. Et dans cette honte, ils gardent le silence. Et en face d'eux, il y a de grosses organisations, aujourd'hui de délinquants, parce que c'est une nouvelle délinquance.
De quelle maltraitance s'agit-il ?
Je vous donne trois exemples simples. Une personne qui a eu les listings bancaires et qui se présente au domicile de chacune des personnes âgées avec une carte pour remplacer leur carte initiale et leur remettant même de l'argent. Elle a le listing et elle les dépouille. L'autre exemple, il y a eu ces fameuses prises pour aller à la télé haute définition. Il faut savoir que les vieux dans les campagnes, chez nous, on a à peu près 300 cas. Ils ont payé 4000 euros la prise. Elle n'en coûte pas 40. Tout dernièrement, il y a eu la décision de légiférer sur la lutte contre l'incendie. Ce sont simplement des détecteurs. Ça ne coûte rien, cette affaire-là. Eh bien, ils ont quand même trouvé de les vendre 400 euros à chaque personne âgée, vous voyez. Or, il y a ça. Et puis, il y a les professionnels de prédateurs, parmi lesquels les mouvements sectaires, les sectes. Ou alors une auxiliaire de vie sociale qui travaille chez la personne âgée. Et on s'aperçoit au bout d'un an qu'il y a un mariage qui se fait, ou beaucoup d'adoptions plénières de gens qui, une fois mariés ou adoptés, parfois quittent le pays, d'ailleurs avec la personne âgée elle-même, et qui est assez bien dépouillée par des réseaux très organisés.
Donc un véritable phénomène de société, une nouvelle forme de délinquance. C'est un phénomène européen ?
Alors en France, moi j'ai eu la chance de faire pour le médiateur de la République l'enquête sur les maltraitances financières en 2010 et 2011. Les résultats sont édifiants. La loi n'est pas connue, les lois de protection. Elles sont parfois inapplicables, faute de personnes pour les appliquer. Elles ont besoin de modifications substantielles parce que sinon elles peuvent au contraire ouvrir la porte aux prédateurs. Et le Conseil de l'Europe a été très intéressé par cela et m'a demandé d'animer une commission maintenant pour faire en sorte de connaître mieux les dispositifs législatifs existants en Europe, s'ils sont applicables ou pas, et comment faire pour harmoniser les législations de chacun des pays européens. Ce n'est pas une mince affaire, parce que où placer le curseur entre l'atteinte à la liberté des vieux ? Ou placer le curseur pour les protéger sans leur ôter leur dignité. C'est notre défi aujourd'hui. Faire du cousu-main, ça veut dire former des gens, former des praticiens, former des professionnels, donner aux juges la possibilité d'avoir du temps à consacrer aux vieux, donner aux greffiers des palais de justice une formation comptable leur permettant de vérifier les comptes des gens qui sont sous tutelle, former la police, former la gendarmerie, former les familles. Parce qu'on sait très bien qu'être famille d'un malade atteint de maladies neurodégénératives, c'est terrible dans sa vie. À un moment donné, on y laisse sa peau. C'est donc un monde très complet dans lequel il y a beaucoup d'humanité à apporter, beaucoup de reconnaissance, mais beaucoup d'exigences professionnelles et familiales, et certainement à introduire beaucoup de conseils et de répit.
Au-delà de la question juridique, la maltraitance financière pose également la question de la morale, de l'éthique. Qu'est-ce que ce phénomène nous dit de notre société ? Qu'est-ce que ce phénomène nous renvoie comme image de notre société actuelle ?
Je pense surtout que notre société n'était pas prête à l'allongement de la durée de la vie. Qu'elle n'était pas prête que des familles immédiates pensent que l'héritage ne se fera plus au niveau de la deuxième génération. Il y a donc à reconnaître dans cette nouvelle organisation, cette nouvelle architecture, la place de chacun. Il y a sans doute à refonder ce que j'appelle un noyau familial ou un noyau relationnel pour éviter qu'un tel ou un tel, devenant nécessairement âgé, se retrouve isolé et donc la proie à tous les prédateurs. Et en même temps, faire en sorte de déculpabiliser les familles parce qu'elles ont toujours l'impression de mal faire aussi. Et avec cette impression de mal faire, on en arrive à tout confondre. Et là, comment parler? C'est une nouvelle éthique dont il nous faut parler, mais pas une éthique de sentiment. C'est une éthique d'exigence, de pouvoir trouver des nouveaux repères, mais en même temps de ne pas se cacher la tête dans le sable. Parce que dans l'étude faite pour la médiature, on s'est rendu compte que ni les procureurs, ni les préfets n'étaient en mesure de nous fournir des chiffres.
Ce phénomène touche toutes les classes sociales.
Oui. Et non seulement il touche toutes les classes sociales, mais il touche particulièrement les classes aisées, les classes où il y a de l'argent visible.
Pour conclure, de quelle manière l'Église, les organisations religieuses peuvent-elles contribuer à ce nouveau défi?
L'Église contribue déjà, contribue en organisant des rencontres de personnes âgées, des sorties de plus en plus, de l'intergénérationnel, de plus en plus, avec des jeunes. Il y a actuellement une contribution. Elle peut par contre être plus vigilante. Vigilante dans la façon dont une personne âgée va faire à un moment donné trop de dons. On va dire, tiens, là on a un problème, parce qu'elle commence à être prolixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Tout à coup, on va la voir, elle n'aura plus de quoi manger. L'Église peut être celui qui va alerter. Celui qui va faire en sorte qu'un relais social puisse se mettre en place, vous voyez. Elle le fait en partie, mais je pense que son rôle devrait être beaucoup plus large.